Bonsoir à toutes et à tous.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 12 avril 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Mali, la MINUSMA réclame un accès à Moura où l'armée est accusée d'avoir mené des exactions. Dans le centre du Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées dimanche par des hommes armés. En République démocratique du Congo, libération des derniers otages de la Codeco en Ituri, dont Thomas Lubanga et Floribert Ndjabou. Au moins 45 morts dans des inondations en Afrique du Sud, frappées par de fortes pluies sur la côte Est. Et au moins 16 personnes ont été blessées ce mardi par des tirs dans le métro de New York à Brooklyn. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Au Mali, depuis l'opération des forces armées à Moura, plusieurs organisations veulent mener une enquête indépendante. La MINUSMA n'a pas eu l'autorisation des autorités et sa demande à l'ONU a été bloquée par le veto russe. Au micro de notre correspondant Mohamed Danioko, le directeur adjoint de la communication de la mission onusienne, Olivier Salgado.
La MINUSMA, conformément à son mandat, continue de suivre de très près la situation des droits de l'homme dans le pays. En plus des efforts de documentation, la mission maintient un contact permanent avec les autorités maliennes pour encourager, quand c'est nécessaire, la conduite d'enquête et la prise des mesures de suivi requises, y compris sur le plan judiciaire. Il s'agit donc d'un appui, et il est impératif de tout faire pour lutter contre l'impunité. En ce qui concerne Moura, la MINUSMA a exprimé sa profonde préoccupation face aux allégations de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui nous sont parvenues au cours d'une opération antiterroriste menée par les forces armées maliennes, comme vous le savez. Alors la question a été abordée il y a quelques jours au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces allégations sont très préoccupantes et en application de son mandat sur les droits de l'homme confié par le Conseil de sécurité, et en soutien aux efforts visant à établir les faits, la MINUSMA a d'ores et déjà commencé son enquête. Cette enquête doit maintenant être poursuivie sur le terrain afin de vérifier les faits.
C'était Olivier Salgado, directeur adjoint de la communication de la MINUSMA. Dans le centre du Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées dimanche par des hommes armés dans des attaques contre des villages imputés à des bandes criminelles, ont déclaré ce mardi des sources locales. Ces attaques menées dans l'état du plateau ont fait plus de 100 morts, selon de responsables locaux et un commandant d'un groupe d'autodéfense. Les forces de sécurité et les autorités locales ont confirmé les violences, sans toutefois donner de bilan des victimes. La police de l'État a envoyé des agents supplémentaires dans 9 villages. Des centaines de villageois ont fui leur maison depuis lors. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les 4 derniers membres d'une délégation otage d'un groupe armé avec lequel elle était venue négocier en Ituri sont libres après près de 2 mois de détention. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
La libération de Thomas Lubanga et Floribert Ndjabou, ainsi que de Justin et Désiré Lobo, 2 colonels de l'armée, a été annoncée par Pitchout Mbonina Iribi, porte-parole de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri. Les 4 hommes ont plutôt échappé à leurs ravisseurs et sont arrivés à Bounia ce matin, selon un autre membre de la Task Force. 8 membres de la délégation ont été pris en otage le 16 février par les miliciens de la Codeco qui dit défendre les intérêts de la communauté hindoue. La task force composée d'anciens chefs de guerre comme Thomas Lubanga et Germain Katanga a été envoyée par le président Félix Tshisekedi pour négocier un cessez-le-feu et la démobilisation avec les miliciens Codeco. Il les avait pris en otage, reprochant à l'armée d'avoir bombardé la zone durant leur réunion.
En Afrique du Sud, au moins 45 personnes ont été tuées dans des inondations et des glissements de terrain causés par plusieurs jours de fortes pluies sur la côte Est. Les intempéries ont suscité l'intervention de l'armée. Le point avec Jean-Roger Bion.
Plus de 2000 maisons ont été endommagées ainsi que quelques 4000 logements informels, a déclaré l'élu de la province, Sile Zikala, lors d'une conférence de presse. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies cet après-midi, notamment dans la région de Durban, dans le KwaZulu-Natal. L'armée a été mobilisée pour apporter un soutien aérien pendant les évacuations. Des élèves et des enseignants d'une école secondaire de la ville portuaire sont toujours pris au piège. Sur les plages de Durban, un tas de débris, branches, bouteilles en plastique se sont amoncelés. Les fortes précipitations ont aussi entraîné des coupures d'électricité et de nombreuses routes sont bloquées. La fourniture en eau est également perturbée. La compagnie publique des chemins de fer a annoncé la suspension de ses services dans la région à cause des glissements de terrain et des décombres sur la voie. Les habitants ont été appelés à éviter tout déplacement. Ceux résidant dans des zones en hauteur ont été invités à accueillir leurs voisins en contrebas touchés par les intempéries. Selon les prévisions météo, les fortes pluies doivent se poursuivre encore dans la soirée.
Le Maroc rouvre ce mardi ses liaisons maritimes pour les passagers avec l'Espagne, indiqué le ministère des Transports. Les automobilistes devront toutefois patienter jusqu'au 18 avril. La réconciliation entre l'Espagne et le Maroc a été scellée jeudi dernier avec la visite à Rabat du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. En Égypte, la justice a écarté toute piste criminelle dans la mort de l'économiste Ayman Hadoud, décédé dans un hôpital psychiatrique public au Caire début mars. Porté disparu le 5 février, M. Hadoud était en charge des questions économiques au sein du Parti libéral de la réforme et du développement de Mohamed El Sadat, député et neveu du président assassiné Sadat, qui a récemment négocié la libération de nombreux militants en Égypte. Près de 40% de la population en Somalie fait face à des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire et certaines zones connaissent probablement la famine, alerte l'ONU dans un nouveau rapport. L'enquête qui utilise l'indice IPC montre que 6 millions de Somaliens subissent l'insuffisance alimentaire avec de probables conditions de famine dans 6 zones du pays, affirment plusieurs agences onusiennes dont l'UNICEF et la FAO.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des tirs dans le métro de New York à Brooklyn ont fait au moins 16 blessés ce matin et des engins explosifs non déclenchés ont été retrouvés selon les pompiers. Un important dispositif de sécurité a été mis en place au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue. La police recherche un homme portant un masque à gaz et une combinaison orange dans la mégapole de près de 9 millions d'habitants. Cela ne fait pas l'objet d'une enquête pour acte de terrorisme à ce stade, a déclaré la chef de la police de New York, Kishan Sewell, lors d'une conférence de presse. Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays nie toute exaction en Ukraine, a déclaré ce mardi que le massacre de civils présumé dans la ville de Boutcha, près de Kiev, est un fake selon lui. Le point avec Jacques Aristide.
Les autorités ukrainiennes ont dit avoir découvert des dizaines de corps à Boutcha après le retrait des troupes russes à la fin du mois écoulé. Mais Vladimir Poutine a comparé ces accusations à celles concernant l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad en Syrie. « On a le même fake à Boutcha », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans un cosmodrome de l'Extrême-Orient russe. Le président Poutine a également indiqué que l'offensive de son pays en Ukraine se poursuivait calmement et en minimisant les pertes. Une offensive nécessaire et inévitable d'après lui pour garantir la sécurité de la Russie face à une Ukraine qui a commencé à être transformée en place forte anti-russe, à cultiver le nationalisme, le néo-nazisme, dit-il. Pour sa part, le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé davantage d'armes auprès de ses alliés, notamment pour renforcer la défense de Mariupol, ville assiégée depuis plus de 40 jours. L'armée ukrainienne dit s'attendre très prochainement à une offensive russe de grande envergure dans l'Est.
4,6 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre. Toutefois, plus de 870 000 Ukrainiens sont retournés chez eux, indique le service des gardes frontières ukrainiens, précisant que 25 000 à 30 000 personnes par jour regagnent le pays. L'inflation s'est encore accélérée en mars aux États-Unis, atteignant son plus haut niveau depuis plus de 40 ans, raison principalement des prix de l'essence, poussant l'administration Biden à annoncer des mesures. Les prix ont augmenté de 8,5% sur un an contre 7,9% en février, selon l'indice des prix à la consommation publié ce mardi par le département du travail. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Au Burkina Faso, la société russe Norgold ferme sa mine de Taparko, invoquant la force majeure et la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Norgold affirme qu'elle fait face à des menaces croissantes contre ses opérations et son personnel chaque jour qui passe. Nous vous informons donc de l'arrêt de nos activités minières pour cause de force majeure et pour des raisons de sécurité, a écrit le directeur général Alexander Hagan Mensah dans un communiqué. L'Organisation mondiale du commerce a revu à la baisse sa prévision de croissance du commerce mondial cette année à 3% contre 4,7% en raison de l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il est désormais clair que le double choc de la pandémie et de la guerre a perturbé les chaînes d'approvisionnement, renforcé les pressions inflationnistes et réduit les anticipations de croissance, a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'OMC. Pour terminer, l'Union européenne demande aux pays producteurs de pétrole de voir s'ils peuvent augmenter leurs livraisons pour aider à endiguer la flambée des prix du pétrole, a déclaré à Reuters un responsable de la Commission européenne qui a assisté à la réunion avec l'OPEP à Vienne. Bruxelles souligne que l'OPEP a la responsabilité d'assurer l'équilibre des marchés pétroliers.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball Africa League pour commencer avec la deuxième sortie ce soir des équipes de la conférence Nil au Caire en Égypte. Après sa défaite d'entrée, la mission de relance est compliquée pour Cobra Sport du Soudan du Sud devant les redoutables Angolais de Petro de Luanda. Difficile opération de relance également pour les Sud-Africains de Cape Town Tigers face au champion en titre, le Zamalek. En football, le Français Patrice Baumel n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Son contrat de 2 ans, arrivé à son terme le 6 avril 2022, n'a pas été renouvelé, annonce la Fédération ivoirienne de football. Ancien adjoint d'Hervé Renard, Baumel a remporté dans ce rôle 2 CAN avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Nommé entraîneur des éléphants en mars 2020, il quitte la sélection sur un bilan mitigé. La Côte d'Ivoire a été éliminée par l'Égypte en janvier en 8e de finale de la dernière CAN au Cameroun et n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Le nom de son successeur ne devrait pas être connu dans l'immédiat. La FIFA élisant un nouveau président le 23 avril prochain. La Côte d'Ivoire organisera la prochaine CAN du 23 juin au 23 juillet 2023. Ligue des champions, ce soir en Europe, le Real Madrid aborde en favori son quart de finale retour face à Chelsea. Du portier sénégalais Edouard Mendy et de l'ailier marocain Hakim Ziyech, battu 3-1 à l'aller. À Santiago Bernabéu, les Anglais tenants du titre seront privés de leur attaquant belge, Romelu Lukaku, blessé au talon. Dans l'autre rencontre, le Bayern Munich, sacré en 2020, accueille Villarreal à l'Allianz Arena. Le Bayern doit remonter un déficit d'un but sur Villarreal, vainqueur 1-0 à l'aller. Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, seront jugés du 8 au 22 juillet en Suisse pour escroquerie dans l'affaire de paiement suspect qui les a placés depuis 2015 au banc du football mondial, annonce le tribunal pénal fédéral. Les deux anciens dirigeants, également poursuivis pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres, sont soupçonnés d'avoir obtenu illégalement au détriment de la FIFA un paiement de 1,8 million d'euros en faveur de Michel Platini, précise la juridiction. Visé l'un comme l'autre par d'autres procédures en France pour Michel Platini et en Suisse pour Sepp Blatter, ils encourent 5 ans d'emprisonnement ou une amende s'ils sont reconnus coupables d'escroquerie.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a contacté son homologue sénégalais Macky Sall, qui assure la présidence de l'Union africaine. Kiev cherche le soutien de l'organisation continentale dans son conflit avec la Russie, alors que beaucoup de pays africains se sont abstenus lors des récents votes aux Nations Unies concernant cette crise. Monsieur Sall dit sur Twitter avoir évoqué avec Monsieur Zelensky les effets du conflit sur les économies africaines et la nécessité d'une solution négociée à la guerre. Abdourahmane Dia a joint à Dakar Ibrahima Kan, chargé de plaidoyer à l'ONG Osiwa auprès de l'Union africaine.
Je pense qu'il réalise que l'Afrique compte dans le concert des nations, surtout lorsqu'on a besoin de vote au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, et que l'Afrique compte aussi beaucoup de pays qui collaborent encore avec la Russie. Et donc, il a tout intérêt, au moins, à ne pas s'aliéner le soutien de ces pays-là, que ce soit pour le vote au niveau des Nations unies, mais que ce soit aussi dans le cadre du dialogue qu'il veut instaurer avec les États pour amener la Russie à arrêter ce que il considère comme une agression, que la Russie considère comme une sorte de défense de ses propres citoyens sur le territoire ukrainien.
Justement, on a constaté que beaucoup de pays africains, lors des récents votes à l'Assemblée générale des Nations unies, se sont soit abstenus ou ont même, dans certains cas, soutenu la Russie. Est-ce que c'est un peu ce qui a poussé le président Zelensky à appeler le président en exercice de l'Union africaine?
Certainement, et je pense que, en tout cas moi, la lecture que j'ai faite de l'article de notre journal quotidien Le Soleil sur l'entretien donne une indication très claire sur les intentions des uns et des autres. Je pense que les Ukrainiens veulent mobiliser un plus grand soutien pour leur cause, mais quand on lit l'article du Soleil, Macky Sall a vraiment mis un accent sur l'impact économique de cette crise-là sur les pays africains et dire en même temps qu'il est vraiment bon, en tout cas le temps est venu maintenant d'essayer de trouver une solution à cette crise pour éviter aux États africains qui ont déjà une économie très fragile aux conséquences de la crise sanitaire qu'on a connue ces deux dernières années, qu'il faut trouver une solution à cette crise de manière à ce que les États commencent vraiment à de redémarrer économiquement.
Et comment justement vous expliquez cette position un peu de prudence du président sénégalais Macky Sall, le Sénégal qui est un allié des Occidentaux? On a vu que lors de son appel avec le président russe Poutine, aussi bien que durant son appel avec Zelensky, il a adopté un ton assez prudent, pour ne pas dire de neutralité. Également le Sénégal qui s'est abstenu au moins à deux reprises aux Nations Unies. Comment est-ce que cela s'explique?
Bon, Abdourahmane, regardez un tout petit peu. Cette crise-là, c'est d'abord une crise européenne. C'est une crise entre pays européens. C'est une crise dans laquelle l'Afrique ne trouve presque aucun avantage, sinon un renchérissement des coûts de certains produits de première nécessité. Et en troisième lieu, l'Afrique ne semble pas vraiment être intéressée par cette demande européenne qui veut que l'on choisisse entre la Russie et le reste du monde.
C'était Ibrahima Kan, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Trois leaders du syndicat des enseignants du Togo ont été arrêtés le week-end dernier et mis en prison. Un bras de fer sur des primes oppose les syndicalistes au gouvernement depuis plusieurs mois. Une centaine d'enseignants avaient été relevés de leurs fonctions et mis à la disposition du ministère de la fonction publique pour fait de grève. Le point avec notre correspondant à Lomé, Kossi Wousou.
Le secrétaire général adjoint du syndicat des enseignants du Togo, deux membres du bureau du syndicat et leur informaticien dorment à la prison civile de Lomé. Ils ont été arrêtés le samedi alors qu'ils tenaient une réunion de confection de cartes d'adhésion de leur syndicat. Ils sont poursuivis pour troubles aggravés à l'ordre public. Célestin Agbogan est l'avocat des syndicalistes.
En effet, il leur est reproché d'avoir incité des élèves et d'autres personnes à la révolte dans le cadre d'une grève que le syndicat a lancée courant mois passé. On produit un document ou un tract, un communiqué qui demande aux élèves de sortir, de manifester, etc., etc. Alors que c'est un document qui n'est pas signé. Et donc, on implique leur informaticien pour dire que c'est lui qui aurait confectionné ce document-là. Et donc, il est complice des faits.
Pour Célestin Agbogon, ces accusations ne sont pas fondées. Il estime qu'on ne peut pas, sur la base d'un document qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui n'est pas signé, accuser les syndicalistes pour troubles aggravés à l'ordre public.
Comment peut-on établir juridiquement un lien entre ce document-là et certains responsables syndicaux? C'est une manière d'intimider les responsables du ICET et leur faire clouer le bec. Et ça porte dangereusement atteinte à la liberté syndicale dans notre pays.
Au syndicat des enseignants du Togo, l'arrestation des camarades est vécue comme une pression supplémentaire de la part du gouvernement pour mettre à mal le mouvement de revendication. Kokouvi Sonavo est chargé des relations extérieures du syndicat des enseignants.
Les collègues n'ont rien fait. Ils ont tout simplement utilisé le droit de grève qui est sacré au Togo. Nous invitons le gouvernement à une table de négociation. C'est mieux que de vouloir utiliser la force pour nous intimider, pour qu'on puisse troquer notre plateforme revendicative contre la libération de nos collègues.
Lors d'une rencontre avec les acteurs du secteur éducatif, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, avait menacé de sanctions plus sévères les enseignants grévistes. Les trois syndicalistes viennent de l'apprendre à leurs dépens. Kossi Woussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Nigeria, la police de l'État central du Plateau a annoncé avoir envoyé des agents supplémentaires dans 9 villages où des hommes armés auraient tué dimanche plus de 70 personnes et incendié des maisons. La police et les habitants affirment que des centaines de villageois ont fui leurs maisons depuis lors. Les attaques de gangs armés sont de plus en plus courantes dans le nord et le centre du Nigeria. Un reportage de Timothy Obiezu depuis Abuja. Le récit de Claire Morin-Gibourg.
L'officier des relations publiques de la police de l'État du Plateau, Gabriel Uba, a déclaré à VOA que la police a envoyé des renforts dans les villages touchés, notamment Kukawa, Djiyanbahu, Dongour et Keren.
Nous faisons de notre mieux. Les agents de sécurité seront déployés dans les zones. Et nous avons également renouvelé nos stratégies qui ne seront pas connues du public. C'est une stratégie de sécurité interne qui a été mise en place.
La police n'avait pas encore déterminé le nombre de victimes des attaques selon le porte-parole. Les résidents disent que d'autres corps ont été découverts lundi. Des gangs armés ont envahi les villages dimanche en plein jour, procédant à des tirs sporadiques et incendiant des maisons. Les résidents disent que parmi les victimes figurent des agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs. Selon eux, les assaillants ont enlevé des dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants. Il y a une semaine, 17 personnes ont été tuées dans ce même état du plateau pendant des prières pour la paix et une récolte abondante. Les attaques de gangs armés dans le nord-ouest et le centre du Nigeria sont de plus en plus courantes, suscitant de nombreuses critiques contre le gouvernement. La semaine dernière, des hommes armés ont attaqué une base militaire dans l'état de Kaduna, tuant 15 personnes. Le mois passé, des bandes armées ont attaqué un train à Kaduna, tuant 8 personnes et enlevant des dizaines d'autres, dont la plupart n'ont pas encore été libérées. L'expert en sécurité, Kabirou Adamou, affirme que les autorités doivent assumer la responsabilité de ne pas avoir protégé le public.
Il est important que le suivi et l'évaluation du secteur de la sécurité soient mis en place et des indicateurs de performance doivent y figurer pour que les personnes qui ont failli à leur tâche et qui ont permis que cette attaque se produise soient tenues pour responsables, quelle que soit la punition ou la peine qui leur est infligée. Nous devons également augmenter la participation des communautés aux opérations de sécurité.
La semaine dernière, les opérateurs de télécommunications nigérians ont mis en place une ordonnance du gouvernement interdisant les numéros de téléphone non enregistrés dans le cadre du système national d'identification afin de suivre les numéros utilisés par les criminels.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la question des armes à feu, un sujet politique et social très sensible aux États-Unis, de nouveau sur la table. Le président américain Joe Biden a signé lundi une directive contre les armes dites fantômes, difficiles à repérer et devenues les armes de prédilection des criminels, au moment même où plusieurs fusillades ont été notées dernièrement dans le pays. L'administration Biden veut rendre plus difficile l'obtention d'armes à feu non traçables. Qu'est-ce qui explique la popularité des armes fantômes? Pourquoi le Congrès et la Maison-Blanche n'arrivent pas à s'entendre sur la question des armes à feu de façon générale? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Bénin, une attaque terroriste dans le parc de la Penjari dans le nord du pays a fait 5 morts hier, des soldats touchés par un engin explosif. Cette nouvelle attaque inquiète les populations qui invitent le gouvernement à équiper les soldats en faction dans ces zones devenues cibles d'attaques répétées. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Près d'un mois après les obsèques des derniers soldats tombés sur le champ d'honneur, 5 autres viennent de perdre la vie dans l'explosion d'un engin improvisé. Pour Jude Bonaventure Lodjou, membre du parti FCBE, ces attaques sont la preuve qu'il faut mettre à la disposition des soldats béninois tout le matériel nécessaire.
Il faut que le gouvernement travaille davantage à associer tous les Béninois. C'est qu'il ne suffit pas de promettre le matériel. Il faut que le matériel effectivement soit acquis et mis à disposition. Et aux populations de leur dire que ceux qui viennent attaquer ne viennent pas toujours avec des véhicules, de gros véhicules militaires avec des armes dessus. Mais non, ils se transforment en des hommes ordinaires, en des hommes comme vous et moi. Et ils viennent peut-être demander l'hospitalité chez vous, ou bien rester dans un champ, ou bien des trucs du genre. Et puis, leur moment arrivé, et ils se débusquent, et puis ils agissent.
Une nouvelle attaque qui interpelle les citoyens désorientés par la facilité avec laquelle les actions sont menées. Pour la population, l'heure est grave et les autorités devraient informer au fur et à mesure. Et
même si l'armée devait être la grande miette, qu'on nous dise quand même, choisis les éléments qu'il faut, qu'on nous dise de quels moyens dispose, j'allais dire, le Bénin, pour combattre même les malfrats qui sont dans notre pays. Nous avons quoi, à quelle munition? C'est qu'on a présenté au 1er août, là.
Le Bénin, à ma connaissance, n'est pas assez outillé pour aller chercher par l'arbre à ces criminels-là. Nos frontières sont très poreuses. Nous n'avons ni les moyens humains de produire une formation pointue de nos militaires, de produire des moyens matériels, nous n'en avons pas. Et sans savoir que le Bénin, en termes de sécurité, nous faisons ce que nous pouvons pour sécuriser les nôtres sur le territoire.
Pour la vice-présidente du Bénin, tomber au champ d'honneur est un sacrifice suprême et les assassins ne sauraient rester impunis. Elle l'a martelé aux obsèques de 2 des soldats décédés suite à l'explosion d'une mine artisanale. Mariam Tchabi Talata.
En choisissant de servir dans l'armée, en choisissant la défense et la sécurité de notre nation, vous étiez conscient des risques inhérents à vos choix. Malgré cela, vous vous êtes engagé et aviez servi la République jusqu'au jour ultime, fatidique, où vous êtes tous les deux tombés pour que le Bénin reste debout. Combien sont capables d'une telle conscience nationale, chers dignes et valeureux fils du Bénin, chers enfants tombés les armes à la main? Merci enfin de nous rappeler en ces moments difficiles et pénibles pour tous que se sacrifier pour les autres, c'est s'immortaliser, vivre éternellement dans leur cœur.
Combien de sacrifices encore? Combien de familles vivront de tels drames? Depuis lundi, de nouvelles familles sont inconsolables et attendent, comme le reste des Béninois, les explications sur ce qui s'est passé dans le parc de la Penjari et les résolutions prises par le gouvernement pour la sécurité des soldats béninois et de la population en général. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Lionel Gaïma. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.